création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. La radio et la création aiment interroger le son. Ce soir, ce sera « Comment voyons-nous ?». En théorie, l'information arrive dans le nerf optique, va jusqu'au cortex visuel primaire, où l'image est reconstituée 90 fois par seconde. Parfois, le processus se dérègle. Les deux yeux délivrant une image chacun, il arrive qu'une désynchronisation se produise. Le cerveau reçoit deux fois la même image et considère donc qu'il a déjà vécu cette situation, car il l'a déjà vue. Et que se passe-t-il quand l'image nous est donnée par un environnement sonore, suggérant par exemple une lettre ou un paysage? Il faut croire pour voir, par Tony Ayer et Gilles Mardi-Rossian, création on air.
On pourrait penser que quand on regarde une scène, quand on a les yeux ouverts et qu'on regarde le monde extérieur, ce qu'on voit, c'est une photographie du monde extérieur que nos yeux prennent. Nos yeux envoient à notre cerveau qui décode cette photographie. Depuis plusieurs années maintenant, on sait que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, puisque si les yeux effectivement reçoivent des rayons lumineux, à la sortie de la rétine, il n'y a plus d'image.
Alors, quand je regarde devant moi, j'ai l'impression que la vision est la même partout. Je regarde droit devant moi et j'ai l'impression que tout est net. Une illusion. Du fait de la construction de la rétine, seule la partie qui est très au centre de ma vision est perçue avec une netteté importante, c'est-à-dire avec 10 dixièmes, voire même plus 16 dixièmes. Donc, de voir tous les petits détails de cette image, cette perception-là, elle ne concerne qu'une toute petite portion de mon champ visuel qui est située droit devant, et qui fait un ou deux degrés d'angle visuel maximum. Dès qu'on commence à s'éloigner de ce centre, l'acuité visuelle, elle décline. Très vite, l'acuité visuelle passe à 8, puis 5, puis 3, puis 2 et 1 dixième. Sur les côtés, je ne vois que très flou, que des formes vagues. Mais pourtant, je n'ai pas cette perception-là. Je perçois l'image comme presque la même partout. C'est le cerveau qui reconstruit quelque chose qui est plus cohérent, plus global, plus uni. Parce que à chaque moment, je suis en train de balayer du regard chaque point de la scène visuelle qui m'entoure, de cette rue. Mon regard va se porter sur la persienne que je vois là, avec toutes les petites fentes verticales, puis à ce camion qui est devant moi, avec la plaque minéralogique. Donc en permanence, la partie la plus sensible de mon œil va aller explorer cette scène visuelle pour détecter les détails qui sont dignes d'intérêt. Donc je construis une stratégie où je vais bouger mes yeux pour essayer d'explorer tout ça. Et mon cerveau me fait croire que partout, je vois avec la même netteté. Mais non. Il n'y a qu'au centre de ma vision que je suis capable d'avoir 10 dixièmes, voire même un peu plus, avec une vision normale. Une contrainte imposée par l'histologie, l'anatomie du système visuel, mais que compense mon cerveau pour me donner quelque chose qui est beaucoup plus cohérent et global. C'est probablement déjà une reconstruction du monde pour lui donner sens. Les personnes très myopes, par exemple, ont un œil qui est déformé, qui au lieu d'être sphérique, en gros, est un petit peu ovoïde. Et du coup, cette déformation entraîne une déformation de l'image sur la rétine. Je vois devant moi un mur qui me paraît vertical. Je le perçois comme vertical, mais probablement la projection de ce mur sur ma rétine n'est pas du tout ni rectiligne ni parfaitement verticale. Et encore plus si j'étais myope avec cette déformation du globe qui est ovoïde. Mais le myope verra tout comme moi ce mur vertical et rectiligne. Parce qu'il a toujours appris qu'un mur, c'est vertical et rectiligne, à part Pise. Donc probablement que même si l'aspect physique dit que c'est déformé et pas forcément très vertical, la psychologie du cerveau et la cognition du cerveau fait que c'est un mur qui est droit et vertical. Mon champ visuel ne fait pas 360 degrés. Je ne vois pas derrière moi. Pourtant, j'ai pas une vision du monde qui est coupée à 180 degrés sur chaque côté, en me disant ça je vois et ça je vois pas. Donc je ne vois pas cette limite imposée par mes physiologies, mais mon cerveau reconstruit quelque chose qui est à 360 degrés dans toutes les directions. Donc c'est reconstruit à partir des informations que j'ai déjà acquises, parce que je viens de passer dans cette rue et que je sais que derrière moi il y a un bâtiment et qu'il avait à peu près cette forme-là. Donc ça, je le vois, alors je le vois, je le perçois, alors que je ne le vois pas, ça ne se projette pas sur mon image de la rétine, mais je sais que c'est là. Donc ça, c'est une des manières dont le cerveau reconstruit à partir des limites imposées par le système visuel. Je suis dans une galerie commerçante qui a des choses à voir de partout, que ce soit des publicités, des escalators, des escaliers, du marbre au sol, des enseignes. Alors, imaginons que je regarde un néon. J'ai une impression d'une lumière qui est continue s'il est bien réglé, mais je sais, notamment s'il est mal réglé, qu'il papillote. Je vois quelque chose de continu à partir de quelque chose qui est discontinu. Nos neurones, notre système, il est ouvert en permanence. Mais il a des limites. Des limites imposées à nouveau par son anatomie, par même la biologie moléculaire. Dans certaines conditions, on va atteindre les limites de cette physiologie moléculaire ou de ces neurones qui vont répondre. Et qu'on va utiliser ces contraintes, ces limites, pour transformer une lumière qui est physiquement discontinue en quelque chose que je perçois continu. Je n'ai pas besoin d'allumer ce néon en permanence, de lui faire projeter de la lumière en permanence. Il suffit que je le fasse allumer, 60 fois par seconde, pour que mon impression, c'est que ça soit continu, parce que je suis au-delà des limites physiologiques du système. Mais ce n'est pas un système qui se ferme. C'est un système qui est optimisé. Et puis nous, humains, on l'utilise. On utilise ses limites pour donner une perception continue. C'est ce que fait le cinéma. Je ne projette que 25 images par seconde. mais ça suffit à ce que j'ai une perception continue du mouvement des gens. Une illusion, puisque physiquement, je sais que entre ces 25 images, ben, il y a un laps de temps où il se passe rien. Alors je suis dans une galerie commerçante. Alors c'est à la fois très visuellement riche, mais en même temps pauvre. Pauvre parce que j'imagine quelqu'un qui imagine la même chose va se représenter la même chose que moi. Une galerie commerçante, je pense qu'on en a tous vu et on peut tous la représenter en fermant les yeux, avec la petite musique d'ambiance qu'on vient de franchir. Ce sol pavé nettoyé régulièrement. Je pourrais être dans une autre galerie là, et je la décrirais de la même façon. Donc c'est à la fois très intense et il y a beaucoup de choses, mais très pauvre dans sa diversité. Je crois qu'on doit tous imaginer la même chose. Et si l'auditeur qui n'est pas avec moi, mais ferme les yeux et s'imagine quelque chose, je pense qu'il va le voir. Il va voir probablement la même chose que je suis en train de voir, sans recevoir la moindre lumière qui vienne de cette galerie commerçante. Il va la voir. Et je pense qu'il va vraiment utiliser les aires de sa vision pour la percevoir tout comme moi, ou se l'imaginer. Je crois que c'est à peu près un tiers de notre masse cérébrale qui est impliquée dans la vision, dévolue dans la vision. C'est notre sens premier. Et toutes ces représentations que nous avons stockées utilisent la vision et donc quand on va les réactiver, vont provoquer une image visuelle. Donc on peut voir, ou plutôt percevoir, sans vraiment regarder, sans avoir de lumière. Donc une lumière qui est vraiment intérieure et qui activerait cette représentation et cette mémoire. Donc on est capable, sans qu'il y ait de lumière qui tombe sur notre œil en fermant les yeux, on est capable de voir et de percevoir des choses, quelque chose qu'on a déjà vu. Et donc la question de savoir si je vois, il y a de la lumière qui rentre de mon œil, mais cette information lumineuse qui m'arrive est imparfaite et probablement confrontée à des représentations mémorielles qu'on a d'un objet, ben ces représentations vont influencer sur ce que je suis en train de recevoir comme information pour guider mon cerveau à l'interpréter comme étant cette chose que j'ai déjà vue. Donc je perçois quelque chose, enfin, j'analyse du point de vue visuel une représentation qui est imparfaite, biaisée, mais elle va être confrontée à un souvenir, à une représentation mentale de quelque chose que j'ai déjà vu, et c'est la confrontation des deux qui va résulter à ma perception. C'est quelque chose qui arrive en permanence, en fait, ça on le sait. Je regarde devant moi et j'ai par exemple j'avais une dame qui portait un sac à dos et je voyais pas l'entièreté de son corps. Une partie de son dos est cachée par ce sac à dos, mais je sais que son dos est derrière. Il n'y a aucune lumière qui m'arrive de son dos, c'est masqué par son sac à dos, mais mentalement j'ai une représentation d'une personne intègre et que le cerveau il cherche à minimiser en permanence la différence entre une entrée sensorielle qui est forcément imparfaite et une représentation cohérente et globale du monde qu'on s'est faite parce qu'on y a toujours vécu. Et il semble que le travail brut des airs, c'est effectivement de minimiser cette différence. J'ai pas une tête en haut, un sac et le bas du corps. J'ai un corps qui est en partie masqué par ce sac à dos. Et donc ça, c'est l'analyse visuelle, l'image est imparfaite, mais ma représentation perceptuelle et elle complète une idée d'une personne parce que je sais bien que c'est une personne qui porte un sac à dos.
chaque cerveau construit la scène que le sujet a devant les yeux de façon particulière. Et on ne peut pas comparer la façon dont je vois à la façon dont quelqu'un à côté de moi regarderait la même scène. Tout simplement parce qu'on n'a pas ni les mêmes yeux, ni le même cerveau, ni les mêmes connexions entre les yeux et le cerveau. On doit considérer la perception de fait comme une construction, et cette construction n'est pas la même pour chacun d'entre nous, puisque nous n'avons pas vu les mêmes choses tout au long de notre vie, nous n'avons pas appris les mêmes choses, nous n'avons pas été exposés aux mêmes choses, et nous n'avons pas appris à décoder les informations de la même façon. Vous avez les yeux ouverts, vous regardez quelque chose, et votre cerveau reçoit à chaque instant des paquets d'informations qu'il va devoir reconstruire pour pouvoir donner un sens à ce que vous allez avoir devant vos yeux.
On voit, chacun, n'est qu'une interprétation. C'est-à-dire que c'est comme si finalement on hallucinait tout ce qu'on voyait. Le fait que quelque chose soit rouge, bon, bah, j'ai décidé qu'il était rouge, vous aussi, mais est-ce qu'on le voit vraiment rouge ? Rien n'est sûr, rien n'est évident, en fait. On interprète notre monde, finalement. Alors, est-ce qu'il y a un monde normal qu'on interprète tous normalement parce qu'on l'interprète en grande majorité de cette manière ? Mais faut se dire que les patients, quand ils ont une difficulté, ben, typiquement dans le cadre de tout ce qui touche la conscience, comme la négligence, eh ben, ils ont reconstruit leur monde de telle manière, à un point tel qu'ils n'ont pas conscience d'une partie de l'espace, mais c'est évident, ils se donnent même des excuses. Alors justement, donc la patiente qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est une dame qui a fait une rupture d'anévrisme et qui a eu un hématome, c'est-à-dire qui a saigné dans une partie de son cerveau à droite qui gère la vision. Alors, donc cette patiente, donc à la suite de son AVC, elle a eu d'emblée donc une négligence, donc corporelle, où l'hémicorps gauche n'existait pas, donc et l'hémi-espace gauche n'existait pas non plus. Donc typiquement, comme elle l'explique très bien, son mari, en tout cas au début, quand elle va manger, elle ne va manger que la moitié droite de son assiette. Pas parce qu'elle n'aime pas la moitié gauche, mais parce que la moitié gauche n'existe pas. Elle n'y a pas accès, elle ne le voit pas, ça n'existe pas en fait. C'est comme si moi je vous dis, ben, quand je regarde droit devant, moi je vois ce qui se passe derrière moi. Et vous allez me dire, ben non. En fait, quand on regarde devant, on voit à 180 degrés à peu près, les deux bras tendus sur le côté, on voit d'une main à l'autre droit devant et puis c'est tout. Puis je vais vous dire, ben non, moi je vois très très bien derrière. Vous allez me dire, mais non, derrière ça n'existe pas, on n'y a pas accès. On n'y a accès que si on tourne la tête. Et ben pour elle, c'est pareil, la gauche c'est ça, ça n'existe pas. Ça peut paraître complètement fou, mais ça n'existe tout simplement pas pour elle.
Je vais quand même l'imprimer. C'est au cas où il y a des petits termes barbares. Je vais le sortir.
Alors donc, à la suite donc de cette rupture d'anévrisme, ouais. Donc on avait un hématome temporoparietal ouais. droit et donc une amputation du champ visuel gauche. Donc le but du bilan la dernière fois, c'était de voir s'il y avait que cette amputation du champ visuel ou si elle avait d'autres petites conséquences, d'accord ? Comment vous voyez finalement ?
Comment je vois en fait, enfin les techniques que j'utilise pour
voir. Vous depuis cet accident, comment vous voyez ? Qu'est-ce qui se passe ?
Bah en fait, j'ai tendance à me cogner facilement quand il y a quelque chose qui arrive vite sur la gauche, parce que concrètement, je ne réalise pas qu'il y a quelque chose qui arrive, voilà. Par contre, quand c'est pas quelque chose qui bouge et qui vient vers la gauche, j'ai tendance à savoir en fait qu'il y a quelque chose, qu'il y a un obstacle. Par exemple, un mur que je longe, je sais où il est. Et ça, c'est en fait, je vois une masse. J'ai des flashs qui me disent, comme à la télé, comme quand l'écran devient
quand il y a les nuages, voilà, le bruit.
Voilà, vous savez, les pixels qui voilà, petit à petit ça revient quoi. Et quand je fixe quelque chose, je finis toujours, mais assez souvent par trouver ce qu'il y a quelque chose à gauche parce que je le sens en fait. Parce que je le sens et si je vais regarder parce que je sens quelque chose, effectivement, je me rends compte qu'il y a quelque chose. Donc, en fait, je le vois sans le voir.
Vous le sentez ?
Voilà. Oui, je le sens. Je le sens.
Et alors, ce qu'on avait dit la dernière fois, c'était, par exemple, là, quand vous fixez le bout de mon nez.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe à gauche ? C'est comment ?
Ben, il y a pratiquement rien, quoi.
Alors, du coup, on va attaquer les exercices. Et pendant les exercices, on aura ce ressenti. Alors, on y va. Donc, on commence par les exercices de stimulation du champ visuel. Donc, dans cet exercice-là qu'on va faire maintenant pour que je vous montre. Pour tester le champ visuel, on doit forcément fixer un point, d'accord ? Donc, qui est le référent du champ visuel. Donc, c'est un point droit devant nous. À partir de ce point, du coup, on a un émichamp droit et un émichamp gauche, d'accord ? Parce que si on bouge ses yeux, si on les décale, on décale le point de fixation, et du coup, on décale, par exemple, si on a décalé nos yeux de 5 cm vers la gauche, ben, notre champ visuel aussi a décalé de 5 cm vers la gauche. Donc, quand on décrit le champ visuel, on le décrit toujours par rapport à un point référent qui est forcément droit devant au centre. Quand elle regarde le bout de mon nez, si elle ne bouge pas du tout ses yeux, elle est incapable de me dire s'il y a quelque chose ou pas. C'est-à-dire que moi, je lui présente des cibles et je lui dis est-ce qu'il y a quelque chose, elle me dit non, par exemple. Et alors, quand elle me dit non, c'est quand je teste avec mon doigt, avec des stylos, et elle me dit à chaque fois non, je vois rien, je vois rien, je vois rien. Alors du coup, on fait un test, on a éteint la lumière, et puis je lui dis, on fait exactement la même chose, vous regardez le bout de mon nez, et puis là, vous me dites si vous voyez quelque chose ou pas. Sauf qu'au lieu de lui mettre un stabilo, un stylo ou un bâton fluo, je décide de lui mettre une lampe. Et là, elle va attraper la lampe, elle l'attrape en plus avec sa main droite, elle croise, elle l'attrape, comme si c'était évident, et puis elle referme ses yeux et elle attend. Et puis là, elle rouvre et elle dit « Mais je l'ai vu, là. Enfin, je l'ai pas vu, mais je l'ai senti. » J'ai dit « Bah oui. » Et elle me dit « Mais il était où ?» Et je lui dis « Bah, je vous dis pas, on le refait. » Donc, elle referme les yeux. Et là, je le décale encore plus sur la gauche parce qu'en fait, je l'avais mis, on va dire, à 10 cm du nez. Là, vraiment, je le décale complètement à gauche, donc plus loin que ses oreilles, finalement. Et là, elle ouvre. Elle dit « Ah bah, je le sens. » Et elle dit « Mais je le sens même les yeux fermés, en fait. » Puisque forcément, la paupière ne fait qu'un voile dessus. Et elle l'attrape et elle dit mais vous voulez bien qu'on le refasse après quand mon mari rentre ? Parce qu'il ne va pas me croire si je lui dis que j'ai attrapé ça complètement à gauche. Et puis, elle n'osait même plus aller regarder tellement c'était loin. Et puis je lui dis, mais bougez vos yeux, allez voir où elle est la lampe. Elle me dit, mais elle est très très loin sur la gauche et je l'ai attrapée. Je lui dis oui, et elle me dit, mais... Enfin, je l'ai vue, mais je l'ai pas vue, je l'ai sentie. Et là, ça commençait un peu à se précipiter, elle savait pas trop.
Je sens qu'il y a quelque chose qui passe. C'est comme s'il y avait... C'est une impression qu'il y a quelque chose. Mais de plus en plus... Enfin, que ce quelque chose, petit à petit, est de plus en plus précis. Donc, ça va être un poteau, ça va être un arbre, ça va être quelque chose de dur, auquel cas, attention, il faut que je m'éloigne ou que je m'arrête. Ça va être quelque chose de peut-être mou ou pas grave, entre guillemets, à la limite, même si c'est une personne, ça va être son épaule. Mais ça va pas être quelque chose dans lequel je vais me faire mal. Voilà. C'est cette notion-là. En fait, je fais attention maintenant et de plus en plus, je me fais confiance parce que je sais que je vais pas prendre de risques. J'ai appris, grâce à cette sensation, à mesurer le risque que je prends en continuant ou bien derrière, il faut que je m'arrête ou il faut que je m'éloigne.
Donc le blind sight, ce serait la vision inconsciente. Donc une partie des fibres en provenance de la rétine, ne prendrait pas le même chemin que les autres et aurait un trajet qui finalement court-circuiterait le socle neurologique conscient de la vision. Ces fibres qui court-circuitent du coup la vision consciente, souvent on se rend compte qu'elles sont activées par ce chemin, il est activé par des orientations, du mouvement. Donc c'est ce qu'on appelle la vision aveugle finalement, qui explique bien ce que c'est. Donc on a... une sorte de vision sans conscience de voir. Et donc, chez les patients, ça se manifeste par une impression, un ressenti, une sensation, sentir qu'il y a quelque chose, tout en disant qu'on ne le voit pas. Donc, pour la rééducation, chez ces patients-là, d'abord, il faut leur expliquer ce que c'est. Certains le décrivent très bien, mais n'arrivent pas à s'investir là-dedans, comprennent pas trop bien, et n'y voient pas d'intérêt, ou... Alors on leur dit souvent, bah allez-y au hasard, vous ne voyez pas ? Eh ben rattrapez. Ils disent, oui, bah si c'est au hasard, alors ça veut dire que je ne l'ai pas vu. Et puis on a beau changer d'endroit la cible, la mettre à des distances bien plus éloignées, ou à l'inverse, la mettre plusieurs fois au même endroit, la faire bouger ou ne pas la faire bouger, ils vont systématiquement la localiser, parfois même la qualifier de... Par exemple, certains peuvent dire, bah il y a un A. Mais vous voyez la lettre A ? Ah ben, non, je... Je la vois pas. Mais alors comment vous savez que c'est un A ? Ben, je sais pas, je sens que c'est un A. Ah ben vous voyez, c'est vraiment un A, mais pourtant il y en a 26 des lettres de l'alphabet, donc ça aurait pu être n'importe laquelle, et pourtant vous avez dit que c'était un A. Et petit à petit faire ce travail de finalement leur dire, regardez, vous voyez bien que c'est pas le hasard. Donc faites-vous confiance, essayez de faire davantage confiance à cette vision, à votre sensation finalement. Plus de s'écouter, et surtout le faire spontanément en fait, pas réfléchir, pas essayer de travailler dessus. Dès que vous ouvrez les yeux, hop, vous allez attraper, vous dites ce que c'est. Et puis là, on se rend compte que ça décoince plein de choses et que ça marche quand même pas mal.
Si on considère que la perception est une construction, alors à ce moment-là, on peut tout à fait imaginer que ce qu'on perçoit peut être perçu à partir de signaux lumineux, mais peut-être construit aussi à partir d'autres signaux. On peut considérer que la personne qui est en train de m'écouter parler me voit à sa façon, peut-être même de manière automatique, qu'elle le veuille ou non, à partir de ma voix, à partir même du contenu de ce que je suis en train de raconter. On peut tout à fait imaginer que la vision est une fonction quasi automatique. On peut imaginer que tout stimulus auditif, tactile, construit peut-être une perception visuelle, parce que la vision a un rôle particulier dans notre vie et dans notre rapport au monde. Et donc on peut imaginer que se construire une représentation visuelle à partir d'autres stimulations sensorielles c'est une activité quasiment irrépressible, qui est finalement l'ancêtre des concepts, de nos représentations plus générales sur le monde. Non seulement ce sont elles qui nous servent à reconnaître ce qu'on voit, mais c'est sans doute aussi une modalité à part, parce que c'est la modalité qui sous-tend le raisonnement, l'abstraction, la conceptualisation.
Donc là, Tony, tu es assis. Tu vas fermer les yeux.
Oui.
D'accord. Donc là, on va utiliser le dispositif The Voice, qui est assez connu et développé par Peter Mayer. Donc le principe est assez simple. On a une caméra qui va filmer en temps réel la scène visuelle externe. Donc je vais brancher la caméra. Et chaque image va être retranscrite en son. L'image va rentrer et être divisée en échelle de gris. Ensuite, elle va être pixelisée. Donc plus le pixel est haut dans l'image, plus le son va être aigu. Plus il va être bas dans l'image, plus il va être grave. Un pixel vers la gauche va être au début du son. Un pixel vers la droite va être à la fin du son. Et l'intensité visuelle va être convertie en intensité sonore. Donc, plus le pixel va être blanc, plus le son va être fort. Donc par exemple, une ligne blanche en diagonale sur fond noir, ça va être un son qui s'accroît en hauteur. Donc je vais commencer en pas facile par une lettre de l'alphabet. Et tu vas essayer de la deviner. Et n'hésite pas à commenter les impressions que tu as, s'il y a des lignes horizontales, verticales, ou comment tu arrives à déduire la lettre.
D'accord. Un V ?
Oui. Comment tu as trouvé ?
Un V.
C'est la plus facile en vrai. Alors, je t'en donne une autre.
Donc, il y a une espèce de son avec beaucoup de hauteur de son. Donc, ça serait plutôt une barre. Ensuite, il y a une tenue. Donc, ça serait plutôt une ligne. Et ensuite, une barre. Donc, ça serait un H.
Génial. Et pas mal du tout. Il va falloir que j'augmente les difficultés, alors. Non, je vais faire progressif. Encore une pas si compliquée.
Wow.
Ça te fait quoi comme impression ?
Ouais. Alors, il y a une barre verticale, il y a deux barres verticales. Mais pourtant, et une sorte de ah, c'est un M.
Oui.
Ouais, deux barres autour d'un V, c'est un M.
C'est ça. Allez, on finit par une facile.
Facile.
C'est facile.
Donc, ah, ah non. Alors, ça descend et ça remonte.
Ça nous monte la tête, c'est ça.
Par contre, il y a une barre. Et une barre assez importante. Assez épaisse.
Essaye de le visualiser.
Alors la barre elle est au milieu du V. Donc ça descend, ça remonte. C'est bien un V, mais Au moment où le son atteint son niveau le plus grave, il y a une barre. Ah, un Y ?
Oui. Il y avait tout. D'accord. Le V avec une barre au milieu.
Ben, c'est très intéressant. Ça force vraiment à dessiner, déjà à repérer les sons, à les déconstruire, à les déconstruire, les déstructurer, ou en tout cas les isoler. Et au moment où on les a isolés, on peut dessiner dans l'espace chacun des sons. Et ensuite, il faut visualiser ce qu'on a dessiné.
Oui.
Donc ça demande vraiment d'avoir de l'espace à l'intérieur, quoi, pour faire ça. Ouais.
Non, ta remarque elle est vraiment intéressante, parce que du coup, la question qu'on se pose, c'est l'utilisation de dispositifs qui convertissent des images visuelles en son. Est-ce que ça reste auditif ou est-ce que cela devient visuel ? Un des ensembles de données qui peuvent permettre d'avancer dans le débat, ce serait quelles aires cérébrales sont activées lorsqu'on utilise ces dispositifs de substitution. Donc l'idée, c'est d'entraîner des participants avec ces dispositifs-là et de regarder avec des outils d'imagerie, donc IRM ou autres techniques, quelles vont être les parties du cortex qui sont activées lorsqu'on utilise ces dispositifs de substitution. Par exemple, on va demander à des non-voyants d'utiliser le dispositif The Voice, donc qui convertit des images en son, et on va regarder quelles sont les aires cérébrales qui sont activées avant apprentissage et après apprentissage. Et ce dont on se rend compte, c'est que avant apprentissage, les aires cérébrales activées sont auditives, donc celles qui correspondent au son entrant. Et après apprentissage, pareil, en regardant par imagerie quelles sont les aires activées, on se rend compte que ce sont les aires visuelles qui sont activées.
Tu veux dire que si je travaillais sur The Voice pendant des mois et des mois, je développerais mon air visuel?
Exactement, exactement. Sauf que ça marche surtout chez les personnes non-voyantes.
Je vous raconte un lieu, quelle que soit la forme du lieu, par exemple, je peux vous raconter comment est organisée une île. Donc je peux vous faire vous promener le long d'un chemin qui ferait le tour de cette île et vous donner des éléments qui sont situés à différentes distances sur cette île. Et je peux vous amener, comme ça a été fait dans certaines expériences par un chercheur qui s'appelle Koslin, je peux vous amener à vous construire une représentation, donc à ce que vous voyez un lieu que vous n'avez jamais visité auparavant.
Je sens le vent dans mes vêtements, sur mon visage, dans mes cheveux.
Et je peux même vous amener à avoir une représentation des distances entre différents éléments sur cette île.
La mer est grise. Au loin, sur la droite, on voit une falaise.
Donc, par exemple, si je vous demande où est situé le phare sur cette île par rapport à l'endroit où vous êtes, par rapport à là où est située une maison.
Il y a des mouettes qui passent dans le ciel. Des falaises blanches au fond, avec de la végétation au-dessus, très verte. Et des bourrasques de vent de plus en plus fortes. Et la végétation qui plie, les arbres sur le lointain, donc on voit bouger.
Le temps que vous allez mettre pour me dire que le phare est situé à tel endroit va être proportionnel à la distance réelle en fonction de la façon dont je vous ai raconté l'histoire. C'est-à-dire que verbalement, je peux vous amener à vous faire construire une représentation qui respecte même la métrique entre les différents éléments dans cette représentation. Comme si la représentation que vous vous étiez construite, elle était vraiment analogique à la perception alors que vous n'avez jamais vu cet endroit.
J'avance sur cette plage en allant vers les falaises. grande plage de sable. J'ai les pieds qui s'enfoncent dans le sable en allant vers cette falaise. Le ciel est gris, rempli de nuages, très gris. Il y a le vent et on voit les nuages qui défilent dans le ciel. Il y a l'océan et les vagues qui sont de plus en plus fortes, la mer qui se forme, l'écume sur la mer, sur le bord, sur le rivage. Et le vent qui vient sur le côté, qui frappe sur le côté. Et l'eau qui monte progressivement sur la plage. Grosse vague. Je m'enfonce progressivement dans l'eau. Je commence à nager dans l'eau. L'eau, elle est froide. Et les vagues qui viennent se fracasser. Et puis j'arrive dans un endroit où l'eau est plus calme. Je nage sans l'eau sur mon corps. Ah, je vais refaire. Très bien.
Alors, parlez-moi de cette expérience déjà. Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc c'est une expérience particulière, ça. J'ai un casque, j'entends une expérience sonore, un paysage sonore, donc c'est une première. Moi, j'avais jamais expérimenté ce que pouvait être d'avoir un paysage sonore de ce type-là, sans image, d'une certaine manière. Et le fait que, de façon extrêmement naturelle, il y a des images qui viennent. Alors la description, elle est toujours que partielle de cette image. Je pense qu'elle rend que très partiellement ce que j'ai ressenti et la force des images que j'ai pu créer. Alors c'est essentiellement des images visuelles que je crée et s'associe ensuite des images, sonores d'une part et aussi kinesthésiques. C'est-à-dire qu'il y a presque un moment où on sent le vent qui pourrait être sur le visage, dans les cheveux. On sent même l'orientation du vent d'une certaine manière. Donc il y a cette espèce de sensation assez bizarre d'être en même temps complètement en immersion interne, puisqu'on a les yeux fermés, on sent bien qu'on n'est pas en mouvement, et en même temps on a cette impression de se voir, en tout cas moi j'avais l'impression de me voir beaucoup à la troisième personne, et puis par moments je passais à la première personne, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être moi-même réellement sur cette plage. Donc il y a une espèce de double niveau permanent entre être cette personne et en même temps ne pas être complètement cette personne-là. Cette plage, elle est réelle. En tout cas, elle revêt une réalité pour moi au moment où je fais l'expérience d'essayer de me projeter dans cette plage-là. Elle a évidemment une réalité très forte parce qu'elle est aussi issue de mes expériences passées. C'est-à-dire que c'est une plage qui est une espèce de construction de toutes les plages que je connais, dans lesquelles j'ai pu me retrouver avec un ciel très gris, la mer qui vient fracasser sur la grève. Donc il y a du réel aussi, il y a du passé quoi, et du passif. Moi j'ai l'impression de faire l'expérience de voir cette plage. Alors après, si vous demandiez à d'autres gens, ils vous diraient qu'ils la voient, mais peut-être pas avec la même intensité que moi. Et il y a même une frange très, très, très limitée de la population qui disent ne pas voir la plage. Là, vous avez 2-3% des gens qui disent que non, ils ne sont pas capables de créer des images mentales, visuelles. Donc ils ne voient pas la plage. Mais par contre, ils pourraient sentir le vent. la grande différence entre être réellement immergé dans cette expérience, c'est-à-dire de la vivre, versus y être immergé via un paysage sonore, c'est que typiquement, quand je vais percevoir un objet, mes yeux vont percevoir cet objet-là, il va y avoir une activation qui va aller de mes yeux vers mon cerveau. Et dans mon cerveau, la première zone, d'une certaine manière, qui va s'activer, c'est le cortex occipital, on parle d'aire visuelle primaire, et progressivement, on va avoir une activation ascendante dans le cerveau pour aller jusque dans la mémoire associative et notamment dans les aires du langage où je vais pouvoir dénommer l'objet ou dénommer la scène dans laquelle je me trouve. Ce qui est très différent dans une image mentale, c'est qu'on va faire exactement le chemin inverse. On va partir de la mémoire associative et renvoyer l'information vers les aires visuelles primaires. C'est-à-dire que, alors même qu'on n'a pas d'input visuel, on va avoir une activation des aires visuelles primaires et on va remonter de nouveau le courant jusqu'à la mémoire associative. Mais on a en fait une boucle qui est inverse, qui va de la mémoire associative vers les aires visuelles primaires, alors que dans la vision, on va dans l'autre sens, on va des aires visuelles primaires vers la mémoire associative. C'est exactement les mêmes processus qui sont en jeu dans la perception visuelle, quand il y a un réel input visuel, et quand on imagine simplement ou quand on fait appel à une image mentale. On parle en anglais de mind's eye, on voit avec les yeux de son esprit, mais vraiment, on voit avec les yeux de son esprit. Alors pour donner une idée de ce que peut être une image mentale et pour avoir l'expérience d'une image mentale, alors évidemment on peut le faire via le paysage sonore que vous m'avez présenté, mais on peut aussi le faire sur des petits jeux qui sont beaucoup plus simples. Si je vous pose par exemple la question de savoir si un berger allemand a des oreilles pointues ou des oreilles rondes, très probablement, si vous n'avez pas déjà stocké cette information en mémoire associative, si c'est la première fois qu'on vous pose la question, très probablement, vous allez créer une image mentale du berger allemand et vous allez zoomer sur ses oreilles et vous allez faire effectivement l'expérience de se dire, bon, est-ce qu'il a plutôt les oreilles rondes ou est-ce qu'il a plutôt les oreilles pointues ? Quand on est psychologue, on ne peut pas imaginer autre chose que toutes les idées, par définition, proviennent de notre cerveau. On ne peut pas imaginer qu'il existe des idées ou des objets qui soient en dehors de la construction qu'on en fait dans notre cerveau. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres gens qui considèrent, par exemple les mathématiciens, sont absolument persuadés que, enfin certains d'entre eux, qu'il y a des objets mathématiques qui existent indépendamment de notre cerveau. Quand on est psychologue, on sait bien que de toute façon, les représentations qu'on crée ne sont toujours qu'une construction. Ça n'est jamais le réel, c'est une construction du réel, une représentation du réel. C'est-à-dire que je ne, d'une certaine manière, la tour Eiffel a une réalité, mais elle est propre à moi quand je crée une représentation de la tour Eiffel. C'est-à-dire que quand je vois la tour Eiffel, elle n'est pas exactement comme la tour Eiffel que crée mon voisin. Alors, on est d'une certaine manière en reconstruction permanente du monde parce que, encore une fois, il va y avoir une interaction très forte et un discours, j'irais presque, entre les représentations qui sont créées au moment où je vais percevoir un objet et puis tout le background, toute mon histoire personnelle qui est l'expérience que j'ai de cet objet, la façon dont j'ai rencontré cet objet dans d'autres environnements, va faire que la représentation que je crée in fine, elle m'est propre et elle est toujours un peu différente d'un autre et elle est différente d'une situation à une autre. Alors, l'image mentale, c'est important pour l'enfant à plusieurs titres. Alors, typiquement, vous connaissez le petit jeu où il faut mettre des carrés, des ronds ou des triangles. Et les enfants, très rapidement, vers un an et demi, on peut déjà montrer qu'ils ont ces capacités qu'on appelle de rotation mentale. Ils sont capables d'imaginer la rotation d'un objet tridimensionnel dans leur tête pour déterminer quelle est la bonne orientation pour faire rentrer le petit triangle dans le trou associé. Alors, cette capacité donc d'imaginer une rotation tridimensionnelle des objets, elle est un peu différente. C'est un processus un tout petit peu différent du processus qu'on utilise pour s'imaginer à la place de l'autre. Et on voit que très rapidement, en fait, les enfants sont capables de faire ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre le point de vue d'une tierce personne, mais avec un coup. C'est-à-dire que généralement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend son propre point de vue pour juger le monde. Et pour pouvoir opérer ce changement, cette transformation égocentrique de son point de vue, c'est-à-dire m'imaginer à la place de l'autre, eh bien, typiquement, on fait appel à l'imagerie mentale. C'est-à-dire qu'on imagine une translation de son ego, de son self, dans l'autre. Et très rapidement, les enfants sont capables de faire ça. La capacité progressive qu'on a d'imaginer le point de vue d'autrui va se développer essentiellement sur la capacité qu'on va avoir à sortir de notre automatisme qui est de juger le monde selon notre propre point de vue. C'est-à-dire, typiquement, si cette expérience, donc c'est une expérience qu'on mène en collaboration avec Alain Berthos, qui est au Collège de France. Il a fait cette expérience dans un très grand nombre de conférences dans lesquelles il demande simplement aux gens « faites comme moi ». Et puis, il va lever le bras droit, mais sauf qu'il est en face des gens. Et tout le monde lève son bras gauche. Parce que de façon automatique, on se met en résonance motrice d'une certaine manière. Sauf que quand vous devez faire comme moi, typiquement, si je lève mon bras droit, vous devriez lever votre bras droit. Et d'ailleurs, on voit bien, si je me mets de dos maintenant, et que je suis dos à vous, que je lève mon bras droit, là, vous n'avez aucun problème pour lever vous aussi votre bras droit. C'est simplement parce que on est en résonance l'un par rapport à l'autre. Vous faites une erreur en miroir, typiquement. Donc, on voit qu'on est capable de faire réémerger des erreurs égocentriques, même chez l'adulte, simplement parce qu'on l'a mis dans un contexte dans lequel l'automatisme est suractivé. Et cette erreur, elle reflète simplement un automatisme qu'on a créé au cours du temps.
Égocentré.
Une erreur égocentrée.
Façon-là, sous l'angle de la subjectivité, de la particularité pour chacun, elle renvoie forcément à des questions sur l'interaction entre l'inné et l'acquis, sur le rôle de la culture, sur le rôle sur l'interaction entre le sujet et son environnement, et donc ça dépasse de loin la biologie de la perception ou le système visuel de l'œil au cerveau. Bien sûr, c'est une conception très large et très riche de notre rapport au monde, et c'est d'ailleurs aussi une façon de s'interroger sur les difficultés qu'on peut avoir parfois, soit à confronter nos perceptions, soit à enrichir notre perception de la perception de l'autre. Et moi, je milite pour véritablement un apprentissage de la vision, parce que pour moi, on apprend à percevoir. Et quelque part, on peut aussi éduquer la perception en expliquant comment les systèmes perceptifs fonctionnent. Le réel, c'est quelque chose que chacun d'entre nous construit et qui est une interaction entre les stimuli qui nous arrivent du monde extérieur dans toutes les modalités. La mémoire hein, qu'on a acquise, donc dans tous les domaines, et notre motivation. Parce qu'on peut aussi considérer que notre attention, notre motivation, conditionne ce qu'on perçoit, et en particulier l'interaction entre ce qu'on perçoit, ce qu'on connaît, ce qu'on souhaite percevoir, ce qu'on ne souhaite pas percevoir, ce qui attire notre attention, qui est forcément lié à notre motivation. Donc le réel, comme la perception, de mon point de vue, il est propre à chacun. Et nous ne percevrons pas tous la même réalité, tout simplement parce que notre système est incapable de percevoir tout ce qu'il y a dans la réalité. Et on ne peut traiter que les informations vers lesquelles on dirige notre attention. Et on ne dirige notre attention que sur les informations qui ont une motivation pour nous. Ou les informations qu'on connaît, ou à l'inverse, celles qu'on ne connaît pas et qui attirent notre attention parce qu'on ne les connaît pas. Donc à chaque instant, il y a un calcul qui se fait entre ce qui est nouveau, vers lequel on doit attirer notre attention, ce qui est connu, vers lequel on n'a pas besoin d'attirer notre attention. Et donc, notre perception de la réalité à chaque instant, et ce qu'on considère comme étant la réalité, elle dépend de tout un ensemble de facteurs dont on n'est pas forcément conscient. Plus je dirais, toutes les informations qu'on perçoit de manière non consciente, puisqu'on perçoit aussi des informations de manière inconsciente, à l'instant où je vous parle, vous percevez peut-être pas du tout le contact entre vos pieds et le sol. Mais du moment où je vais prononcer cette phrase, vous allez prendre conscience du contact entre le sol et vos pieds que vous ne perceviez pas jusque-là. Et pourtant, cette information, elle était présente. Si vous ne la perceviez pas, c'est parce qu'il n'y avait aucune raison que vous attiriez votre attention sur ce stimulus-là, qui n'est pas pertinent au moment où je vous parle. Et donc, le réel, à chaque instant, c'est cette alchimie entre toutes ces stimulations qui sont présentes, mais qui n'ont pas forcément le même poids pour votre cerveau à chaque instant. On considère toujours que il faut l'avoir vu pour pouvoir croire quelque chose. Et les gens, d'ailleurs, dans le langage de tous les jours, disent « je l'ai vu de mes yeux ». Vraiment, il faut le voir pour le croire. C'est une expression courante. Alors qu'en réalité, moi, je pense qu'il faut croire pour voir. Et qu'il faut savoir pour voir. Et qu'on ne voit que ce qu'on sait, que ce qu'on connaît. Et que finalement... c'est dans l'autre sens. Il faudrait pas dire je l'ai vu de mes yeux, mais je l'ai vu de mon cerveau. Il faudrait pas dire il faut le voir pour le croire, mais il faut le croire pour le voir, ça c'est sûr. Parce que finalement, notre perception du monde, elle est conditionnée par notre savoir. Et notre savoir conditionne notre perception, qui à nouveau va conditionner notre savoir, et ainsi de suite.
Croire pour voir, de Tony Ayer et Gilles Mardi-Rossian, avec Cédric Lamirel, ophtalmologue, Malika Auvray, chercheur au CNRS, actuellement en poste à l'ISIR, l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, dans le domaine de la psychologie cognitive. Fiora Martinelli, neuropsychologue et spécialiste des troubles neurovisuels à la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild. Grégoire Borst, professeur des universités en psychologie du développement et en neurosciences cognitives de l'éducation, directeur adjoint du laboratoire de la Sorbonne, unité mixte de recherche de l'Université Paris-Descartes et du CNRS. Sylvie Chocron, directrice de recherche au CNRS et neuropsychologue, responsable de l'unité fonctionnelle, vision et cognition à la Fondation ophtalmologique Rothschild. Et responsable de l'équipe Perception, Action et Développement Cognitif du laboratoire. Musique, Tony Ayer. Mixage, Bruno Mourlan. Avec la collaboration de Inès Debrune. Production, Irène Omelianenko.